C'était avant, des histoires de famille, des histoires de pays, au présent, maintenant, des histoires de transmission, de reflets, de ressemblances, de génération en génération, et une question récurrente, que faire de toute cette mémoire ?
De vive voix.
Pascal Paradou.
C'est la nuit à Genève, il fait doux, quelques étoiles dans le ciel, un homme est à sa fenêtre, en face de lui des immeubles éclairés, c'est tout. Et le voilà assailli par les voix de son enfance. Ainsi commence le nouveau roman de Max Loeb, La danse des pères, qui nous embarque dans l'histoire du Kamloun, à moins que ce ne soit le Cameroun. Bonjour Max Loeb.
Bonjour Monsieur Paradou.
C'est un roman un peu nostalgique. Ou je me trompe?
Nostalgique? Non, je crois pas. Si je m'en tiens à ma définition de la nostalgie, on pourrait parler de saudade, qui est le mal du pays ou le souvenir lumineux d'une enfance passée quelque part. Je parlerai davantage de saudade à la brésilienne que de nostalgie.
Et c'est un roman, en tout cas, qui est dédié à votre père, qui est décédé, je crois, il y a une quinzaine d'années. C'est pas neutre, quand même. Ça participe de cette saudade.
Alors, les pères, surtout les morts, moi je me suis souvent posé la question, à partir de quel moment devient-on ancêtre? En réalité, on devient ancêtre une fois qu'on est mort. Ça veut dire que même un nouveau-né mort-né, par le fait qu'il ait passé la barrière qui mène donc à l'autre côté de la vie, il devient ancêtre. Donc ici, non, c'est plutôt la gaieté d'une relation père-fils qui n'a pas tourné comme elle aurait dû tourner.
Elle n'est pas forcément idéale, cette relation père-fils telle que racontée dans le roman.
Elle n'est pas idéale parce que je pense que dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et puis là, a fortiori, dans ce roman où on parle du Cameroun, il n'y a pas un seul père qui voudrait avoir un fils qui soit à moitié plein et moitié vide de virilité, mais de leur virilité, parce que personnellement, je considère que je suis totalement plein de mes virilités.
Parce qu'en effet, l'un des sujets du roman, c'est que ce père rejette son fils qui est homosexuel. Alors, ce n'est pas exactement le mot qui est dit d'ailleurs, c'est dit « pédé ». À l'époque, on disait « pédé ». C'est encore plus violent d'ailleurs, ou c'est la même chose?
Aujourd'hui encore, on le dit, il faut savoir qu'on peut se réapproprier les termes. Alors, que l'on me dise PD parce que c'est un adversaire identifié, cela ne dérange pas beaucoup. Mais lorsque il s'agit d'enfants, des plus jeunes, du mobbing, de harcèlement, voyez-vous, j'ai bientôt 40 ans, hein, des cheveux blancs et bien plus. Donc le mot PD, je l'ai non seulement métabolisé, mais on est entré dans une sorte de transmutation de ce terme. Et donc je l'utilise à essayant et ça me fait éclater de rire.
Le père est quand même très violent et il rigole pas du tout quand il dit « mon fils, c'est 9 mois pour rien ».
Ce n'est pas tout à fait le père qui dit ça. Le père, vous savez, dans ces sociétés camerounaises des années 90, c'est la famille traditionnelle où il y a le chef de famille et son fameux fauteuil de chef de famille. Mais c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation de l'enfant, parce qu'on a une éducation qu'on reçoit, une instruction qu'on reçoit à l'école, et puis il y a la société, la famille qui fabrique d'autres gens. Donc c'est souvent les plus petits qui vont avoir l'œil très homophobe en résultat de ce qu'ils ont écouté de leurs parents à la maison.
Cette relation, cette difficulté de relation entre le père et le fils, c'est celle du personnage du roman, Benjamin Muller. Mais c'est un peu vous, c'est un masque, Benjamin Muller, on est d'accord?
Tellement, un alter ego, une image que je perçois dans le miroir lorsque je me regarde.
Lui, comme vous, êtes parti du pays. Vous êtes arrivé en Suisse, vous aviez 18 ans. Quel mot vous utilisez? Exil, éloignement? Quel est le mot juste? Fuite.
Ah, que carino. Alors aujourd'hui, j'utiliserai le terme, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce que ouais, nous pensons vraiment qu'il s'agisse ici d'exil psychiatrique. Voilà, ce n'est pas l'asile, mais c'est l'exil psychiatrique. On va à la recherche de quelque chose en soi, tapis, et puis on ne veut pas toucher à cette chose, mais il faut, à un certain moment, toucher à cette chose-là. Et c'est ce que je fais avec ma relation au père.
Et cette chose-là, alors je ne sais pas ce que vous appelez cette chose-là, mais n'est possible que... en prenant de l'éloignement, en partant. Pour quelle raison vous êtes parti à 18 ans? Pour faire vos études en Europe, mais...
Pour faire des études en Europe, c'est un motif. Déjà, j'entends sans ces études faites en Europe, les sciences de la communication à Lugano, et puis l'IDEAP à Lausanne, qui est de l'ordre de l'ENA. Donc, vous parlez à un énarque suisse formé au journalisme. Non, c'est simplement... Vous savez, il y a une chose, toute chose a son temps. Il y a le temps pour s'aimer, pour se faire la guerre, se divorcer, etc. Et puis il y a un temps à l'aune de l'emprisonnement dont nous avons été l'objet pendant le Covid, et on se retrouve alors face à des souvenirs les plus enfouis au plus profond de nous qu'on n'aurait pas même souhaité revoir. Or, la philosophie qui consiste à dire « je veux savoir, entre guillemets, la vérité », commande alors de traverser toutes ces étapes-là pour aller chercher une petite fleur de souvenir au rapport au père.
Donc ce roman La danse des pères, Max Loeb, est né, si je vous comprends bien, dans ce moment d'isolement du monde qui était la période du Covid. Et ça, c'est le personnage dans le roman qui le dit. Vous vous regardez dans la glace et vous vous dites comme je lui ressemble.
Mais tellement.
Au père.
Tellement. Pour les auditeurs qui ne nous voient pas, j'ai des lèvres colorées et des cheveux d'une crinière de lion. Mais cela n'enlève rien, parce que lorsqu'on se réveille le matin et qu'on regarde dans le miroir, dans son miroir, on voit son reflet. La première chose qu'on se dit, c'est pas « je suis noir, je suis blond, c'est asiat ». Non, questo viene dopo. C'est qu'on a eu l'habitude et on a mûri cette habitude de ce que l'on dise « c'est à cause de sa mère, il ressemble beaucoup à sa mère et puis c'est vrai ». Sauf que récemment, je me suis rendu compte que je ressemblais énormément à mon père aussi. Alors la vraie question en algèbre, c'est de dire « est-ce que mon père et ma mère se ressemblent ?»
Est-ce que vous vous dites « malgré tout, je ressemble à mon père, malgré que notre relation n'ait pas été celle qu'on pourrait imaginer, rêver ?»
Vous savez, une semence, lorsqu'elle est puissamment déversée à l'intérieur de son réceptacle et que ces millions de soldatoïdes, de spermatozoïdes vont à la conquête de la vie, eh bien, il y en a un qui gagne. Et ce un qui gagne cette conquête de la vie-là, il est malséant, il est stupide de lui dire qu'il est un 9 mois pour rien. Et ça, on l'entend dans les rues en Afrique. C'est ainsi, la mère avait su, alors elle aurait avorté. Et même le bon Dieu l'aurait comprise. Alléluia, on a envie de dire. Mais non, c'est vraiment reprendre sa colonne, la colonne de sa vie, et dire, moi, je ne cherche pas à les faire mentir. Ils n'ont qu'à continuer de le dire. C'est bien à chacun sa vie, ça leur appartient. Si quelqu'un veut me donner du « il », du « elle », du fait de ce que je porte, du rouge à lèvres, ou ça, faites comme vous voulez. Si vous voulez m'appeler Maxina, Max. Sauf que, voyez-vous, cher Pascal, je sais qui je suis. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quelle est ma colonne? C'est pas le moindre vent qui va venir me déraciner. Parce que précisément, je sais quelle est ma colonne et vers où je vais.
Max Loeb, la danse des pères. Alors, le mot est au pluriel, car il n'y a pas que le daron dans votre roman. On va évoquer tous les autres. Mais tout d'abord, Dandy Guel, MC, improvisateur, beatmaker, ambianceur et musicien avec un nouveau titre, Beau et Fort.
Ma sœur, t'es belle et forte, t'as pas besoin de te défriser. Cousine, t'es belle et forte, t'as pas besoin de faire des UV. J'suis pas là pour t'éduquer, mais j'exprime mon opinion. À ma condition, est-ce que c'est du rap conscient? J'en ai aucune idée, mais maintenant je me sens conscient de qui je suis. Maintenant je me sens confiant car j'ai l'appui d'un public sérieux, obligé de faire mieux. J'ai réalisé que nous sommes beaux et forts. Autrefois dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts. Beaux et forts. Autrefois dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts. La gueule de l'emploi, plutôt la gueule du suspect. Crois en toi, crois en moi, ça va se faire dans la durée. J'ai été accusé, mon nom a été sali. Je suis Cassius Clay, je suis Mohamed Ali. Y'a rien d'évident, je te le concède. J'suis un résistant, j'crois en mon concept. Je vais rien laisser tomber, quitte à défier la loi de Newton. J'ai réalisé que nous sommes beaux et forts. Autrefois dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts.
Dandy Guel sur RFI et sans faire de liaison tirée par les cheveux, je suis tenté, Max Loeb, de vous demander quel mot de cette chanson vous caractériserait le plus, beau, fort ou dandy?
Les trois mis ensemble. Parce que il faut aussi dire quelque chose. Quand je parle de danse, c'est le corps, c'est le magnifié, c'est ce corps noir dont on a souvent entendu dire « t'es trop beau pour un noir ». Alors, moi, je vais me vanter, je suis trop beau pour un humain, tout simplement.
Max Loeb, notre invité pour son nouveau roman « La danse des pères ». Des pères, pourquoi ce pluriel alors que ce livre est dédié à votre père?
Le prétexte, c'est de parler du géniteur. Mais en fait, les pères, ils sont nombreux. Ne serait-ce que Dieu le Père, qu'on retrouve dans la seconde partie du roman, où on parle d'Aaron, de Moïse. Ce sont des questions très actuelles. Et puis, il y a le père des indépendances, Oshem. Oshem, quelle honte. Quelle honte que je doive dire devant de nombreuses personnes que le pays qui m'a vu naître est toujours dirigé par le même bonhomme depuis une cinquantaine d'années. On se demande alors la question évidente qui saute à l'entendement, mais c'est « qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se trouve dans cela? Mais le père, c'est aussi Mongo Betty, tous les écrivains de la résistance. et encore les résistants que nous connaissons aujourd'hui.
Et puis c'est toujours le père du père, parce qu'il y a une généalogie dans ce roman. Vous allez chercher les ancêtres, donc il n'y a pas que votre père, mais il y a aussi par exemple, Wolfgang, le grand-père du père, c'est ça ? Donc,
exactement.
Donc c'est votre arrière-grand-père.
Exactement.
Hein, c'est l'arrière-grand-père du narrateur, l'aïeul. Et il s'appelle Wolfgang, car le Cameroun a été allemand. Alors, vous dites c'était hier, parce que vous aimez les redoublements de mots, mais c'est important de raconter cette histoire, et ce roman raconte l'histoire du Cameroun.
Alors oui, parce que vous savez, on ne vient pas de nulle part. Nous ne sommes pas des êtres tombés d'une galaxie, non, on s'inscrit dans quelque chose. Plus que jamais, la question coloniale aujourd'hui est traitée parce qu'il ne s'agit plus d'un simple écrivain africain qui viendra déranger les gens avec les histoires de colonisation du Cameroun, de l'Algérie, et j'en passe. Moi, j'aime de moins en moins utiliser le mot colonisation et je parle d'occupation. Comme ça, on se comprend mieux. Donc, la France, pendant qu'elle était occupée, a fait appel à des gens qui l'ont aidée sincèrement, avec l'objectif de voir leur liberté à leur tour leur accorder. Sauf que la liberté ne s'accorde pas, elle s'arrache. Et voilà la raison pour laquelle on a continué dans un système colonial dont le colon n'est rien d'autre que un noir, voilà, qui a étudié à Paris et qui vient cuisiner sa sauce dans nos marmites africaines.
Et là, vous parlez du premier président du Cameroun.
Et du deuxième, par ailleurs. C'est-à-dire que Amadou Ahidjo a quand même été porté au pouvoir par le général de Gaulle. Et puis encore, le général de Gaulle, on pouvait voir des hommes d'État. C'est pas que j'en fais un ami proche, certainement pas. Mais avec le président Biya, tout a changé. Et je suis très mal placé pour parler de la décrépitude de ce pays. Parce que voyez-vous, et je termine avec ça, ce qui est cher est cher, ce qui est esprit. Mais quand on finit de cabosser les corps, quand on finit de les utiliser, ces temples, alors l'esprit, il n'y a pas. La sagesse, il n'y a pas. L'intelligence, il n'y a pas. On laisse place uniquement à la luxure, au plaisir.
Max Loeb, là c'est vous qui parlez, votre personnage dans le roman La danse des pères n'est pas forcément beaucoup plus tendre, et il raconte comment son père lui raconte. Est-ce qu'il y a un enseignement de l'histoire dans les familles ?
Tellement, et c'est là la première base de la transmission, parce que voyez-vous, l'école est politique, ce qui est enseigné aux jeunes, que ce soit en France ou ailleurs, ce sont des décisions politiques. Donc à la maison se passe d'autres choses. Je lisais le dernier texte de Philippe Besson qui dit comment ça se passe ce truc là à la maison, qu'est-ce que l'enfant entend, les brimades, le fait que l'on doive faire la révérence à l'autre uniquement parce qu'il est de style caucasien. Moi, je ne suis plus de cette génération, quoi.
Donc, c'est le père qui raconte. Il raconte sous l'arbre ancêtre. Et il raconte notamment l'indépendance en 1960 avec le premier président, Ahidjo. Il se souvient du discours dans le poste du premier président. Et il dit qu'il avait une voix de mouton noir.
Camerounais, Camerounaise, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne.
En 1960, 60, ce discours du premier président camerounais et le père dans votre roman Max Lopp qui raconte, qui n'a pas de mots trop durs pour parler de ce président, qui est nommé le président berger et qui dit que le pays avec lui est devenu chien dépendant.
Chien dépendant, oui, à partir de lui. Et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. On est même dans une sorte de rien dépendance, de nine dépendance. Et j'aime bien les propos du général Valsero qui dit lorsque le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus perfides sont en réalité des actes de changement. Je m'inscris dans cette pensée-là de dire que il n'y a que des hommes, et je suis en mode inclusif pour ne pas qu'on me tire les cheveux par la suite. Il n'y a que des hommes qui détruisent, il n'y a que des hommes qui construisent. Il nous faut des gens, des jeunes de ma génération qui soient à mesure de vouloir construire. Ils sont là, je suis là, nous sommes disponibles.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle ?
Ah bon ?
je me moque.
Vous savez, je suis formé pour ça d'ailleurs. Je vous ai dit que j'ai fait l'IDEAP, l'ENA, en Suisse en plus. Je suis formé pour défendre les intérêts d'un pays. Et donc, ce n'est pas la matière grise qui manque, c'est la volonté.
Donc, un premier président, un deuxième que vous appelez Pomba.
Pomba,
c'est Paul Biya en fait. Mm-hmm. Et ce pays que vous appelez tout au long du roman le Cameroun. Pourquoi le Cameroun ?
C'est pas tout au long du roman.
Souvent, plusieurs fois.
C'est surtout dans la bouche du père. Il dit notre Cameroun, notre Cameroun. Bien sûr, les Camerounais appellent le pays Cameroun, Mboa, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie le Cameroun ? Ces frontières-là. Il y a eu des grosses Cameroun et puis il y a eu le butin récupéré par la France et l'Angleterre. Il y a eu une guerre de résistance. J'aime pas parler de guerre de libération, une guerre de résistance face à l'occupant français, face à l'occupation française.
Est-ce qu'on peut dire à cette occasion salade de sandales ?
Parce que ça
revient tout au long du roman. C'est une formule que vous affectionnez, Max Lopp. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris dans quel contexte il faut l'employer. Salade de sandales.
Mais c'est le père qui utilise beaucoup cette formule salade de sandales. Vraiment, prenez des sandales à l'entrée d'une mosquée, mettez dans un bol et puis vous mettez de la vinaigrette. Il y a des mots comme ça, comme Adougou bien bien, son livre Adougou bien bien, qui est même bas sur le Cameroun. Je voudrais dire au lecteur, la lecture, c'est pas simplement lire la danse des pères, c'est de comprendre ce qu'il y a au-dedans de la masse des mots. J'en ai marre des gens qui me disent qu'ils ont avalé 2 livres de 1000 pages en une soirée. Vous serez constipé. Je préfère qu'on prenne un livre de 200 pages et qu'on comprenne. C'est pas au tournant d'un mot. Un mot, on s'en fiche. Mais qu'est-ce que le gars est en train de vouloir nous raconter avec ce roman ? C'est ça que je propose au lecteur. La suite du travail que j'ai fait, eh bien, c'est à eux de réaliser le film comme ils le souhaitent.
Alors malheureusement, aux auditeurs, je ne peux proposer qu'un extrait de votre roman, Max Lopp. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de cette danse des pères et on va laisser la parole aux femmes finalement parce qu'il y a les pères, mais il y a aussi la mère et il y a aussi une tante dans le roman.
Antiboame, de la Chine à la Suisse. L'histoire d'Antiboame mérite qu'on y passe un peu de temps. Deuxième fille de grand-mère coquette Minla, Antiboame Minla avait grandi avec son père à elle, dans l'une des deux régions anglophones du Cameroun. Là-bas, Béa, une ville verte de fraîcheur toute l'année. C'est pour ça que son français portait des accessoires de Pidgin English. Est-ce que tu es sûr que ton truc là, Nobi Watafoufou, avait demandé à Antiboame à sa sœur? Oui, parce que maman l'avait inscrite dans son club des valeureuses. Ma sœur Boame avait poussé maman en levant ses mains d'innocence. Est-ce que je peux te rouler dans de la farine? Viens dans ma tontine et tu verras toi-même le grand frère du changement dans ta vie. Même ton fiancé Johnny, il va dire « Yes, ma chérie Boamé, de moi, you'll be a container of a woman. Tu es une vraie femme. »
Max Loeb, la danse des pères, vous êtes un formidable acteur de votre texte. Et on entend cette langue qui finalement porte la trace de l'histoire du pays. Puisqu'il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a toutes les langues qui ont traversé ce pays, qui se retrouvent dans votre écriture. Vous avez une écriture polyglotte.
Polyglotte, on dit roman polyphonique, polyglotte. Moi, j'aime bien la formule roman opéra, avec des personnes qui s'expriment de manière différente, qui ont un frame, un cadre, un dispositif pour lire le monde. C'est ça une langue en réalité. Et alors, quand on est quelqu'un comme moi qui en parle plusieurs, qu'elle soit occidentale ou africaine, je pense que les rideaux changent de temps en temps. Je ne vois pas les choses tout à fait comme les autres. Et ce n'est pas un doigt d'honneur à la langue française. L'on devrait considérer que c'est un enrichissement et que, allez, essayez, je vous donne le défi, créez-nous une langue comme ça, que même l'intelligence artificielle ne soit pas en mesure de reproduire.
Est-ce qu'il y a une part de création dans les mots, dans les formules? Parce que je peux repérer de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, etc. En revanche, je ne repère absolument pas une phraséologie des mots des langues africaines. Est-ce que vous les prenez et vous les injectez comme ça dans la langue française ou il y a aussi une part d'invention de votre part?
Il y a bien sûr de l'invention. En tant qu'écrivain, mon premier matériau, ce n'est pas le langage, c'est la langue. C'est la langue, voire les langues. Je suis citoyen suisse, on en parle 4-5 au moins. Et puis une autre chose, vous savez quand vous lisez un roman, c'est un nombre de mots incalculables avec le parti pris de ne pas mettre par exemple des tirets sur... c'est une œuvre d'art. J'entends, pour avoir une œuvre d'art, il faut travailler, c'est laborieux, souvent très ingrat, mais je voudrais dire, comme Hannah Arendt, c'est que le roman, comme toute autre œuvre d'art, s'inscrit dans l'infiniment plus grand que Max Loeb, que tous ceux qui sont derrière Max Loeb. Il faut comprendre que tout ceci nous dépasse. Vous voyez, on vient, on vit, on meurt, et au milieu de tout ça, il y a la danse de la vie entre la naissance et la mort. Quelle est la danse de la vie que je veux pour la mienne de vie?
Mais où avez-vous trouvé Max Loeb? Alors, c'est la dernière question, elle est immense, mais où avez-vous trouvé ce goût, ce désir d'écrire de cette façon? C'est pas Léna qui forme à écrire la danse des pères.
Non, il faut s'ouvrir à la rêverie, s'ouvrir à la contemplation, disait Schopenhauer, s'ouvrir au spirituel, s'ouvrir... Mais quand je dis spirituel, il ne faut pas avoir une forme de prosélytisme. Vous pouvez lire la Bible comme lire un roman de Max Loeb, ça revient tout à fait à la même chose. Ou alors pratiquer du yoga. Il y a vraiment ce truc de dire que l'intelligence doit s'accompagner d'une sagesse. Plus que jamais. Et si alors on n'a pas la grand-maman qui savait donner des bons conseils, je recommande vivement le livre des Proverbes.
Merci beaucoup Max Loeb. La danse des pères est éditée chez Zoé. Dehors, le jour se lève tout nouveau sur mon visage. C'est la dernière phrase du roman. De vive voix, Pascal Paradou. Programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve très vite.
Les bisous.